Le pendu de Reading par Oscar Wilde. Chapitre 1er. Il n'avait plus sa tunique écarlate, car le sang et le vin sont rouges, et sur ses mains, il y avait du sang et du vin contre le trou avec la morte, la pauvre femme morte qu'il aimait et qu'il avait tuée dans son lit. Il allait parmi les détenus en un costume d'un gris râpé, sur sa tête une casquette de cricket. Son pas semblait léger et gai, mais jamais je ne vis un homme regarder si intensément le jour. Jamais je ne vis un homme regarder avec un œil aussi intense cette petite tente de bleu que les prisonniers appellent le ciel, et chaque nuage qui voguait est passé avec une voilure d'argent. J'allais, avec d'autres âmes en peine, dans un autre préau, et je me demandais si cet homme avait commis beaucoup ou peu, quand une voix derrière moi murmura tout bas « Celui-là sera pendu ». Ah, Christ! Les murs même de la prison soudainement semblèrent chanceler, et le ciel, au-dessus de ma tête, devint comme un casque d'acier cuisant. Et bien qu'aussi je fusse une âme en peine, ma peine, je ne pouvais la sentir. Je sus seulement quelle pensée pourchassée hâtait son pas, et pourquoi il regardait la fastidieuse clarté du jour d'un œil aussi intense. L'homme avait tué ce qu'il aimait, et pour cela il devait mourir. Pourtant, chaque homme tue ce qu'il aime et que chacun le sache. Les uns le font avec un regard de haine, d'autres avec des paroles caressantes, le lâche avec un baiser, l'homme brave avec une épée. Chapitre 2e. Pendant 6 semaines, notre soldat fit sa promenade dans la cour en son costume d'un gris râpé. Sur sa tête, sa casquette de cricket et son pas semblaient légers et gais, mais jamais je n'avais vu un homme fixer aussi intensément le jour. Jamais je ne vis un homme regarder avec un œil aussi intense vers cette petite tente de bleu que les prisonniers nomment le ciel et vers chacun des nuages errants qui traînaient sa toison enchevêtrée. Il ne tordait pas ses mains, comme font ces hommes insensés qui osent essayer de faire vivre l'espérance, cet enfant maudit, dans le caveau du noir désespoir. Il ne regardait que le soleil et buvait l'air du matin. Il ne tordait ses mains, ni ne pleurait, pas même se chagrinait, mais il buvait l'air, comme s'il avait contenu quelque vertu anodine. À pleine bouche, il buvait le soleil, comme si c'eût été du vin. Et les autres âmes en peine et moi, qui nous promenions dans l'autre préau, oubliâmes si nous-mêmes avions commis beaucoup ou peu de choses, et nous observions, avec un regard de morne étonnement, l'homme qui devait être pendu. Et c'était étrange de le voir passer avec une démarche si légère et si gaie. Et c'était étrange de le voir fixer si intensément le jour. Et c'était étrange de penser qu'il avait une telle dette à payer. Enfin, l'homme mort ne se promena plus parmi les prévenus, et je sus qu'il se tenait debout dans l'horrible boîte noire où comparaissent les accusés, et que jamais plus, dans ce monde suave du Seigneur, je ne verrais sa face. Comme deux vaisseaux en péril qui passent dans la tourmente, nous nous sommes croisés en route. Mais nous n'avions fait aucun signe. Nous n'avons dit le moindre mot. Nous n'avions aucun mot à nous dire, car nous ne nous sommes pas rencontrés dans la nuit sainte, mais dans le jour honteux. Un mur de prison nous entourait tous deux. Deux déshérités nous étions. Le monde nous avait rejetés de son cœur, et Dieu hors de sa sollicitude. Et l'embûche de fer qui attend le péché nous avait attrapés dans son piège. Chapitre 3e. Avec une démarche lourde et balancée, tout autour du préau, nous exécutions la parade des fous. Que nous importait? Nous savions être la brigade du diable, et tétras et pieds de plomb font une joyeuse mascarade. Nous déchirions brin à brin la corde goudronnée avec nos ongles usés et sanglants. Nous frottions les portes et lavions les planchers. Et nettoyions les barreaux luisants, et par groupe, nous sabonnions les boiseries en heurtant bruyamment les seaux. On cousait les sacs, et on cassait les pierres, et on tournait la drille poussiéreuse. On heurtait les gamelles et on braillait les hymnes, et on suait sur le moulin, mais dans le cœur de chacun, la terreur était cachée tranquille. Si tranquille elle était, que chaque jour se traînait comme une vague embarrassée d'herbe. Et nous oubliâmes l'âpre destin qui attend la dupe et le coquin, jusqu'à ce qu'une fois, en revenant de quelques corvées, nous passâmes auprès d'une tombe ouverte. Avec une bouche béante, le trou jaune bâillait pour une pâture vivante. La boue même réclamait du sang, au prix d'asphalte altéré, et nous sûmes qu'avant l'aube blondissante, l'un de nous se balancerait au gibet. Tout droit nous rentrâmes, l'âme attentive à la mort, à l'épouvante et au destin. Le bourreau, avec son petit sac, passa, traînant les pieds dans les ténèbres, et chaque prisonnier tremblait en se glissant dans sa tombe numérotée. Cette nuit-là, les corridors vides furent pleins de formes effrayantes, et du haut en bas de la ville de fer, on sentait des pas furtifs qu'on ne pouvait entendre, et à travers les barreaux qui cachent les étoiles, des faces blanches semblaient regarder curieusement. Il reposait comme quelqu'un qui dort et rêve sur l'herbe douce d'une prairie. Les gardiens l'examinaient comme il dormait, et ne pouvaient pas comprendre comment on peut dormir d'un sommeil aussi tranquille, avec le bourreau à portée de la main. Mais il n'y a pas de sommeil, quand ceux-là doivent pleurer, qui jamais encore n'ont versé de larmes. Aussi nous, les dupes, les frauduleux, les coquins, fîmes cette interminable veillée, et à travers chaque cerveau, sur ses mains de douleur, la peine d'un autre se glissa en rampant. Pendant la nuit entière, agenouillés, nous priâmes, dément menant le deuil d'un cadavre. Les plumes agitées de minuit étaient comme les panaches d'un char mortuaire, et comme un vin aigre sur une éponge était la saveur du remords. Le coq gris chanta, le coq roux chanta, mais le jour ne venait pas encore, et des formes tortueuses de terreur se blottirent dans les coins où nous gisions, et chaque esprit malin qui s'ébat dans les ténèbres semblait folâtré devant nous. Le vent du matin commença à gémir, mais la nuit se continua. Sur son métier géant, le tissu des ténèbres glissa jusqu'à ce que chaque fil fût tissé, et tandis que nous prions, la peur nous gagnait de la justice du soleil. Enfin je vis l'ombre des barreaux, comme un treillis de plomb façonné, se projeter sur le mur blanchi à la chaux qui faisait face à mon lit de planches, et je sus que quelque part dans le monde, l'aube terrible de Dieu était rouge. À 6 heures, chacun balaya sa cellule. À 7, tout était tranquille, mais l'essor frémissant d'un vol puissant sembla remplir la prison, car le Seigneur, de mort à la laine glacée, était entré pour tuer. Nous attendions le coup de 8 heures. Nos langues étaient épaisses et altérées, car le coup de 8 heures est le coup du destin qui fait un homme maudit, et le destin emploie un nœud bien coulant, pour l'homme le meilleur et pour le pire. Nous n'avions autre chose à faire que d'attendre le signe à venir. Aussi, comme des choses de pierre dans une vallée solitaire, nous étions assis, immobiles et muets. Mais le cœur de chacun battait fort et vite, comme un démon sur un tambour. D'un choc soudain, l'horloge de la prison ébranla l'air frémissant, et de la geôle entière s'éleva un gémissement de désespoir impuissant, comme le cri, qu'entendaient les marécages effrayés, de quelque lépreux dans son repaire. Et ainsi que l'on voit les plus effroyables choses dans le cristal d'un rêve, nous vîmes la huileuse corde de chanvre accrochée à la poutre noircie, et nous entendîmes la prière que le collet du bourreau étrangla dans un grand cri. Chapitre 4. Il n'y a pas d'office le jour où l'on pend un condamné. Le cœur du chapelain est bien trop malade, ou sa face bien trop blême, où il y a écrit dans ses yeux ce que nul ne doit voir. Ainsi ils nous gardèrent enfermés jusque près de midi, et alors on sonna la cloche. Et les gardiens, avec leurs clés cliquetantes, ouvrirent chaque cellule aux écoutes, et nous descendîmes pesamment l'escalier de fer, chacun hors de son enfer distinct. Dehors, au doux plein air de Dieu, nous allâmes, mais non à la façon accoutumée, car la face de celui-ci était blanche de peur, et la face de celui-là était grise, et jamais je ne vis des hommes tristes regarder aussi intensément le jour. Jamais je ne vis des hommes tristes regarder, avec un œil aussi intense, cette petite tente de bleu que nous, prisonniers, appelions le ciel, et chaque nuée indifférente qui passait en heureuse liberté. Comme des singes ou des clowns, en monstrueux apparat, étoilés de flèches en dessins irréguliers, silencieusement, Nous allâmes tout autour de la cour d'asphalte glissant. Silencieusement, nous allions tout alentour et personne ne disait mot. Silencieusement, nous allions tout alentour et dans chaque cerveau creux, la mémoire de choses terribles s'engouffrait comme un vent terrible et l'horreur paradait devant chacun et la terreur rampait derrière. Les gardiens se pavanaient de ci de là, gardant leurs troupeaux de brutes. Leurs uniformes étaient tout battant neufs, et c'était leur tenue des dimanches. Mais nous savions à quelle besogne ils avaient été par la chaux vive de leurs souliers. Car là où la tombe s'était ouverte toute grande, il n'y avait plus de tombe du tout, seulement un peu de terre et de sable, près du mur hideux de la prison, et un petit tas de chaux ardente, afin que l'homme ait un suaire. Car il a un suaire, ce malheureux, tel que peu de gens peuvent en réclamer. Bien au fond, au bas d'une cour de prison, nu pour plus grande honte, il gît, avec des chaînes à chaque pied, enveloppé dans un drap de flammes. Et pendant tout le temps, la chaux ardente dévore sa chair et ses os. Elle ronge les os cassants pendant la nuit et la chair tendre pendant le jour. Elle mange la chair et les os tour à tour, mais elle ronge le cœur sans cesse. Chapitre 5e. Dans la geôle de Reading, auprès de la ville, il est une tombe d'infamie, et là gît un misérable dévoré par des dents de flamme. Dans un linceul ardent il gît, et sa tombe n'a pas de nom. Et là, jusqu'à ce que Christ appelle les morts, qu'il repose en silence. Nul besoin de prodiguer des larmes insensées, ou de pousser de haletants soupirs. L'homme avait tué ce qu'il aimait, et c'est pour cela qu'il eut à mourir. Et chacun tue la chose qu'il aime. Que tous entendent ceci, les uns le font avec un regard de haine, d'autres avec des paroles caressantes, le lâche avec un baiser, l'homme brave avec une épée. Ainsi s'achève Le pendu de Reading par Oscar Wilde.